J'ôtais d'abord mes bottes et j'allais, en chaussettes, vers la panoplie qui surmontait le canapé. Je pris un poignard de damas, à lame aiguisée, vierge de sang. Je le tirai de son fourreau, et celui-ci, je m'en souviens comme si ça datait d'hier, tomba derrière le canapé. Je me dis que je le ramasserai plus tard. Puis, je quittai mon pardessus, que j'avais encore, et je sortis doucement en chaussettes. Arrivé jusqu'à la porte, je l'ouvris brusquement. Je me rappelle l'expression de leur physionomie. Et je me la rappelle car elle fut pour moi une joie cuisante. Une expression de terreur, naturellement, comme je le désirais. Jamais je n'oublierai cet effroi désespéré qui se peignit sur leurs traits à ma soudaine apparition. Lui était assis à table, je crois. Et quand il me vit ou m'entendit entrer, il ne fit qu'un bond jusqu'au buffet. La peur était le seul sentiment que trahit sa physionomie. Sur le visage de ma femme, outre de la peur, se lisaient d'autres expressions dont l'absence eût peut-être écarté l'événement fatal. Car ces impressions me parurent être le mécontentement et la colère d'être dérangée dans son bonheur et dans son ivresse amoureuse. On eût dit qu'elle ne désirait qu'une chose, ne pas être troublée au moment où elle allait goûter le bonheur. Ses expressions ne furent que fugitives. Sur le visage du violoniste, la terreur fit place à l'interrogation. Si on pouvait encore mentir, il fallait le faire tout de suite, ou bien s'y prendre autrement. Mais comment ? Il l'interrogea du regard. Elle le regarda aussi et, immédiatement, son expression de colère et de dépit se transforma en une inquiétude pour lui. Je restai un instant contre la porte, debout, le poignard caché derrière le dos. Tout à coup, il sourit et d'un ton d'indifférence vraiment ridicule, en cet instant, il dit « Nous venons de faire un peu de musique. Oh, quelle surprise » ajouta-t-elle sur le même ton. Ils n'osèrent continuer. Je fus saisi de la même fureur qui m'avait dominé 8 jours plus tôt. J'éprouvai de nouveau le besoin de destruction, de laisser libre cours à ma violence. Je sentis les délices de cette fureur et je m'y laissai aller complètement. Tous deux s'arrêtèrent court, car ce dont ils avaient peur allait commencer et ruiner tout ce qu'ils pouvaient dire. Je me précipitai sur elle, cachant toujours mon poignard, pour qu'il ne m'empêchât pas de la frapper à l'endroit choisi, sous le sein. Il remarqua mon mouvement et, ce à quoi je ne m'attendais pas de sa part, il se jeta vers moi, me saisit par le bras et s'écria « Revenez à vous, de grâce, au secours !» Je m'arrachai de ses mains et je fondis sur lui. Je devais paraître terrible, car il devint pâle comme la mort. Ses yeux eurent un reflet singulier et, ce à quoi je ne me serais non plus jamais attendu, il gagna lestement la porte en filant par-dessous le piano. Je voulus le poursuivre, mais un poids s'abattit sur mon bras gauche. C'était elle. Je fis un effort pour me dégager. Elle se suspendit plus lourdement et ne me lâcha pas. Cet obstacle inattendu, ce poids, ce contact arboré, augmentèrent ma rage. Je sentis que je devenais fou, que je devais paraître effroyable, et cela m'exalta davantage. Je pris mon élan, et, avec le coude de mon bras gauche, je lui donnai un coup violent en pleine figure. Elle poussa un cri et me lâcha. J'allais le poursuivre, lui, mais j'étais en chaussettes, et il eût été grotesque de poursuivre en chaussettes l'amant de ma femme. Je voulais être terrible, mais non ridicule. Malgré ma fureur extrême, je me préoccupais constamment de l'impression que je produisais sur les autres, et, de même, cette impression influait, dans une certaine mesure, sur ma conduite. Je me retournai vers elle. Elle était tombée sur le sofa et, la main sur la partie contusionnée de son visage, elle me regarda. Son regard exprima la peur et la haine, le regard d'un rat à la personne qui va soulever le piège dans lequel il est pris. Du moins, ne pus-je voir chez elle que cette peur et cette haine qui avaient provoqué son amour pour un autre. Peut-être rien ne se fût-il passé si elle s'était tue. Mais subitement, elle parla, cherchant à s'emparer de la main dans laquelle je tenais le poignard. « Mais reprends tes sens, que fais-tu? Qu'as-tu? Il n'y a rien eu, rien, je te le jure !» J'aurais encore hésité, mais ces paroles où je sentais le mensonge et qui me prouvaient le contraire de ce qu'elle disait, ces paroles méritaient une réponse. Cette réponse devait être sur le ton de ma fureur, toujours croissante. La fureur aussi a ses lois. « Ne mens pas, misérable, ne mens pas » m'écriai-je en la saisissant par la main. Elle se dégagea. Alors, sans quitter mon poignard, je la saisis à la gorge et je la terrassai pour l'étrangler. Ses deux mains se cramponnèrent aux miennes pour dégager sa gorge, râlant. C'est alors, comme escomptant ce geste, que je lui plongeai mon poignard dans le côté gauche, au-dessous des côtes. Ceux qui prétendent qu'on ne peut se souvenir de ce qu'on a fait dans un accès de fureur avancent une stupidité et un mensonge. Je n'ai pas perdu un seul instant la conscience de ce que je faisais. Plus j'attisais ma rage, plus je voyais nettement ce que je faisais. Je ne me suis pas oublié une seconde. Je ne dis pas que j'ai prévu ce que j'allais faire. Mais à la seconde même où je l'exécutais, j'en eus la conscience, peut-être même un peu avant. Je savais ce que je faisais, prévoyant la possibilité du repentir, et comme pour me dire par la suite que je pouvais m'arrêter à volonté. Je savais que je portais le cou au-dessous des côtes et que le poignard pénétrerait. Sur l'instant même, je savais que je commettais un acte horrible, tel que je n'en avais jamais commis et gros d'épouvantables conséquences. Mais cette conscience fut rapide comme l'éclair et l'acte suivit immédiatement. Je me rendis compte de cette action avec une clarté extraordinaire. Je revois toute la scène. La résistance du corset, d'un autre objet encore, puis le poignard s'enfonçant dans la chair molle. Elle avait voulu saisir le poignard dans ses mains, s'était blessée, mais n'avait pu l'arrêter. Plus tard, en prison, quand une révolution morale se fut faite en moi, je revis cette minute et je me demandais quelle aurait dû, quelle aurait pu être ma conduite. J'ai encore en mémoire l'instant qui précéda cette action terrible, la notion exacte que j'avais, que j'allais tuer une femme sans défense, ma femme. Le souvenir de ce sentiment m'obsède encore, et je crois me rappeler que je retirai tout de suite le poignard comme pour réparer ce que je venais de faire. Durant une seconde, je demeurai immobile dans l'attente de ce qui va se passer, de la possibilité de réparer mon acte. Elle se dressa et s'écria « Nourrice, il m'a assassinée !» La nourrice qui avait entendu le bruit était entrée. J'étais debout, espérant, ne voulant pas croire à ce qui était arrivé. À ce moment, un flot de sang jaillit sous son corset. Je compris que l'événement était irréparable et je décidai aussitôt qu'il valait mieux ainsi que j'ai commis l'acte qui s'imposait. Je restai immobile jusqu'à ce qu'elle tombât. La nourrice courut vers elle, en s'écriant « Grand Dieu !» Alors seulement je jetai le poignard et je quittai la chambre. Pas de trouble, m'étais-je dit. Conservons la notion de ce que nous faisons. Sans la regarder, sans regarder la nourrice, je sortis. Celle-ci poussa des cris, appelant la femme de chambre. Je traversai le corridor, j'envoyai la femme de chambre près de sa maîtresse et je rentrai dans mon cabinet. « Que faire ?» me demandai-je alors. Et je le vis immédiatement. J'allai directement à la panoplie, je pris un revolver, je l'examinai, il était chargé. Je le posai sur la table. Puis, je ramassai le fourreau du poignard et je m'assis sur le canapé. Je restai longtemps ainsi, sans pensée aucune. J'entendis un bruit de pas, d'objets remués et, au dehors, l'arrivée d'une voiture, puis d'une seconde voiture. Puis Yegor apporta ma malle, comme si j'en avais besoin. « As-tu appris ce qui est arrivé ?» lui demandai-je. « Dis au concierge d'aller prévenir la police. » Il ne répondit rien et sortit. Je me levai, je fermai la porte, je pris les allumettes et les cigarettes et je me mis à fumer. Je n'avais pas fini la première cigarette que le sommeil me gagna. Je dormis bien 2 heures. Je rêvais, je m'en souviens, que j'étais en bonne harmonie avec elle, qu'après une querelle nous allions faire la paix, lorsqu'un obstacle venait nous en empêcher. Mais nous étions amis. Un coup frappé à la porte me réveilla. Ah, « C'est la police, » pensai-je, en secouant ma torpeur, « car j'ai assassiné, je crois. » Peut-être aussi est-ce elle ? Et n'est-il rien arrivé ? On frappa de nouveau, je ne répondis pas. Je me demandais toujours si c'était réellement arrivé ou non. Oui, c'était bien vrai. La résistance du corset et puis... Oui, c'était vrai. C'était à mon tour de me tuer, pensais-je. Je le pensais et je savais bien que je ne le ferais pas. Pourtant, je me levai et pris le revolver. Chose étrange. J'avais souvent été bien près du suicide, cette nuit même, en chemin de fer, parce que je croyais que ce serait un rude coup pour elle. Et maintenant, je n'étais pas capable de me tuer. J'en repoussais même l'idée. Pourquoi donc le ferais-je ? Me demandai-je. Et je ne trouvais pas la réponse. On frappa de nouveau. « Voyons qui frappe d'abord, me dis-je, j'ai le temps. » Je remis le revolver sur la table, je le cachai sous un journal, j'allai à la porte et je tirai le verrou. C'était la sœur de ma femme, une veuve bonne et simple. « Vassia, qu'est-ce ? » dit-elle, et ses larmes toujours faciles coulèrent abondamment. « Qu'est-ce que vous voulez ? » demandai-je rudement. Je sentais bien que je n'avais aucune raison d'être grossier, mais je ne pus prendre un autre ton. « Vassia, elle se meurt. Ivan Zakharievitch l'a dit. » Ivan Zakharievitch était son médecin et son conseiller. « Il est donc ici ? » m'informai-je, et toute ma haine contre elle se réveilla. « Eh bien, quoi ?» « Vassia, va la trouver. Oh, quelle chose horrible !»« Aller la trouver ?» me demandai-je. Et je pensais tout de suite qu'il fallait y aller, qu'il devait en être ainsi toutes les fois qu'un mari, comme moi, a tué sa femme. Puis, je me dis, en songeant à mon intention de me suicider, « S'il le faut, j'aurai toujours le temps. » Et je suivis ma belle-sœur en me disant « Les effusions, les grimaces vont commencer, mais... je ne me laisserai pas affecter. Attendons, dis-je à ma belle-sœur, laisse-moi au moins mettre mes pantoufles. J'ai l'air trop bête en chaussettes.